Oui, la parole de Dieu est là pour nous éclairer dans notre marche chrétienne. Et c'est pour cela que nous prenons le temps de l'ouvrir ce matin et que nous voulons poursuivre notre réflexion, notre méditation du livre d'Esther, un livre peu connu de l'Ancien Testament, qu'on a peut-être entendu à l'école du dimanche, mais sans doute moins en prédication. Et donc nous poursuivons ce matin avec les chapitres 5 et 6. Ce livre nous raconte l'histoire d'une jeune juive qui est devenue reine de cet immense empire perse, un moment tout à fait critique pour l'histoire des Juifs. Au cœur du pouvoir perse se trouve un homme, Haman, dont son peuple originaire a été ennemi juré des Juifs de tout temps. Haman endosse cette haine des Juifs. Il devient l'ennemi public numéro un de ce peuple. Et un jour, alors qu'il croise Mardoché, un juif qui refuse de s'incliner devant lui, il se met en tête de vouloir éliminer tous les juifs pour se venger. Avec sa position de premier ministre, il rencontre le roi, amène le roi à poser un décret qui va recommander d'exterminer tous les juifs de l'Empire. Le premier génocide qui est autorisé par l'empereur. Ce Mardoché qui a refusé de s'incliner devant Haman n'est autre que l'oncle de la reine Esther. Lorsqu'il apprend l'existence de ce décret qui va autoriser le génocide, il prend le deuil. Et avec lui, tous les juifs de l'Empire prennent le deuil. Ils se lamentent, ils jeûnent, ils se désolent. Esther, la reine, qui est enfermée dans une forme de tour d'ivoire dans son palais, apprend néanmoins ce qui se passe. Elle entre en dialogue avec son oncle et Mardoché lui recommande d'aller voir le roi en lui disant « Supplie-le, implore-le pour qu'il annule son décret. » Mais l'opération est risquée. Une loi prévoit que nul ne peut se présenter devant le roi s'il n'a été appelé par le roi, au risque sinon de perdre la vie. Or, cela fait 30 jours que la reine n'a plus rencontré le roi. Et elle a un moment d'hésitation avant d'accepter d'endosser cette responsabilité, de courir ce risque de voir le roi sans y avoir été appelée. Mais pour cela, elle demande à tout son peuple de jeûner, de prier pendant 3 jours. Elle-même va jeûner et prier pendant 3 jours. Et ce n'est qu'au bout de ces 3 jours qu'elle prend son courage à deux mains et qu'elle va rencontrer le roi. Et c'est là que notre lecture débute, au chapitre 5 du livre d'Esther. Esther, chapitre 5, et je lis pour l'instant les 8 premiers versets. « Quand le 3e jour fut arrivé, Esther revêtit les vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, face à la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, face à l'entrée de la maison. Au moment même où le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle eut grâce à ses yeux. Le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il avait en main. Esther approcha, toucha la pointe du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther? Quelle est ta requête ?» Jusqu'à la moitié du royaume, elle te sera accordée. Esther lui répondit, « Si cela te semble bon au roi, daigne venir aujourd'hui avec Haman au banquet que je donne pour toi. » Le roi dit, « Pressez Haman de donner suite à l'invitation d'Esther. » Le roi et Haman vinrent au banquet que donnait Esther. Et pendant le banquet, le roi dit à Esther, « Quelle est ta demande ?» Elle te sera accordée. Quelle est ta requête? Jusqu'à la moitié du royaume, elle te sera exaucée. Esther répondit, ma demande, ma requête, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et s'il te semble bon de m'accorder ma demande et d'exaucer ma requête, alors daigne venir avec Haman au banquet que je donne pour vous demain, et demain je ferai selon ta parole. Jusque-là pour l'instant. Au début de ce chapitre, alors qu'on apprend qu'Esther joue sa vie en allant rencontrer le roi, nous sommes un peu tendus. Que va-t-il se passer? Ce roi un peu lunatique, qui a déjà répudié une première reine, Vashti, pourrait aussi être lunatique à nouveau et refuser la vie à cette nouvelle reine, alors qu'il a tout un harem à sa disposition. Esther est là, sur le seuil du palais du roi, en quelque sorte sur le seuil entre la vie et la mort, et pas seulement sa vie, mais la vie de tous ceux qui sont juifs dans le royaume, des centaines de milliers d'autres juifs de l'Empire. Jusque-là, nous n'avons pas fait la connaissance d'une femme au caractère particulièrement affirmé. Nous avons connu Esther comme une femme de toute beauté, une jeune femme qui avait été élue comme reine sur le seul critère de sa beauté. Mais ici, nous rencontrons une femme qui a changé, ou du moins nous la découvrons sous un nouvel aspect. Une femme qui est prête à prendre un risque incroyable, un risque qui peut lui faire tout perdre en un instant, sa position, ses richesses, même sa vie. Et pourquoi prend-elle ce risque? Parce qu'elle a compris, nous l'avons vu la semaine dernière, elle a compris que ce n'est pas un hasard si elle se trouve dans la position qui est la sienne aujourd'hui. C'est Dieu qui a permis qu'elle soit acceptée comme reine. C'est Dieu qui l'a mise là pour qu'elle puisse intervenir pour tenter de sauver son peuple. Et là, elle est prête à risquer sa vie pour sauver la vie des autres. Elle est prête à tout perdre pour permettre aux autres de tout gagner. Elle a choisi de placer sa confiance en Dieu et elle est prête à prendre ce risque parce qu'elle a foi en un Dieu qui peut agir et intervenir. Quand on a foi en Dieu, qu'on est prêt à prendre des risques, ce n'est pas une raison pour agir de manière inconsidérée, sans réfléchir. Esther a élaboré un plan très soigneusement étudié. Elle n'agit pas par inconscience. Elle sait ce qu'elle fait. Elle est subtile. Elle est intelligente. Et on va le voir maintenant dans sa manière d'aborder le roi. Elle fait preuve d'une extrême diplomatie, de beaucoup de sensibilité. Nous lisons tout d'abord au verset 1, « Esther revêtit les vêtements royaux. » On pourrait se dire qu'avec sa beauté naturelle, elle va chercher à plaire au roi, à le séduire, et peut-être qu'à sa simple vue, le roi va lui être favorable. Ce qui est intéressant, c'est que les termes hébreux qui sont utilisés, traduits littéralement, disent « Esther revêtit la royauté ». Et je crois que même si son charme naturel a pu jouer dans la rencontre du roi et qu'elle a pu en jouer, il y a autre chose qui se passe ici. Quand il est dit qu'Esther revêtit la royauté, elle ne se tient plus devant le roi comme un simple objet de désir sexuel, mais elle assume maintenant sa position de reine. Elle assume sa dignité de reine de Perse. Et c'est la première fois qu'elle endosse cette responsabilité dans le récit que nous avons dans le livre d'Esther. Et c'est aussi la première fois que le roi s'adresse à elle dans ce récit en disant « Reine Esther », alors qu'il lui tend son sceptre. Verset 3, le roi lui dit « Qu'as-tu, reine Esther? Quelle est ta requête ?» Le roi ne voit plus simplement la belle femme. Il voit la reine, celle qui endosse sa responsabilité, qui vient à lui en tant que princesse, en tant que reine, qu'impératrice. Et c'est intéressant de voir que ce changement de posture intérieure change son rapport aux autres. Jusqu'à présent, nous avons vu Esther agir comme les autres voulaient qu'elle agisse. Elle a obéi aux requêtes des autres. Dès lors qu'elle accepte d'endosser sa vraie position, elle est en position d'influencer les autres et de ne faire simplement ce que les autres attendent qu'elle fasse. C'est elle désormais qui a un plan et qui va le mettre à exécution. Elle n'a plus peur des hommes. Elle a placé sa confiance en Dieu. Elle sait qu'elle n'a plus à avoir peur des autres. Et quand on place notre confiance en Dieu, on reçoit le courage d'agir, le courage d'être, même si pour cela on doit prendre des risques. Si bien que quand le roi lui tend son sceptre et lui demande ce qu'elle veut, elle n'est pas déstabilisée. Elle avait prévu de ne pas révéler d'emblée ce qu'elle comptait demander au roi, et elle reste fidèle à son plan. Verset 4, « Si cela te semble bon au roi, daigne venir aujourd'hui avec Aman au banquet que je donne pour toi. » Sa stratégie, c'est d'éveiller l'intérêt du roi. En quelque sorte, en acceptant la proposition d'Esther, le roi s'oblige. S'il va au banquet, il lui sera difficile ensuite de refuser la requête. Peut-être est-il en train de se dire en cet instant, « Mais Esther, tu as risqué ta vie simplement pour m'inviter à un banquet ?» Du coup, sa curiosité est éveillée, il a envie d'en savoir plus. Et de ce fait, Esther aura à sa table les deux hommes les plus puissants de l'Empire. Tous deux viennent au banquet, et là encore le texte hébreu nous dit littéralement « au banquet du vin ». Le banquet du vin, ça devait être un banquet bien arrosé. Un peu le même type de banquet vraisemblablement que celui qui avait conduit le roi éméché à répudier la reine Vashti. Peut-être est-ce la raison, le texte ne nous le dit pas de manière explicite, mais peut-être est-ce la raison pour laquelle Esther n'adresse pas sa demande au cours de ce premier banquet. Elle se dit, si le roi est éméché, il va peut-être m'arriver la même chose que pour la reine Vashti. Éméché, le roi n'a plus toute sa lucidité, il ne va peut-être pas agir de manière intelligente. Le roi lui dit, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Quelle est ta requête? Jusqu'à la moitié du royaume, elle sera exaucée. Je ne suis pas sûr que le roi aurait été prêt à donner la moitié de son royaume. On a là une formule. Formule qui, c'est une manière de parler qui veut dire « Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. » Et Esther répond en disant « Ma demande, ma requête » et elle s'interrompt. Elle ne va pas au bout de sa phrase. Et c'est là, soit à cause du roi qui était méché, soit parce qu'elle a déjà formé le projet de faire un deuxième repas, elle éveille en tout cas la curiosité du roi et elle l'invite à un deuxième banquet. Cette fois, le roi ne pourra plus résister. Il va devoir y aller. Il faut qu'il sache. Ce qui m'impressionne dans cette manière de faire, dans toute la diplomatie mise en œuvre pour faire aboutir son projet, c'est la lucidité d'Esther. Elle se retrouve dans ce premier banquet face à un homme qui a décidé d'exterminer tous les Juifs. Il y a de l'émotion. Elle a vu, elle a entendu tous les Juifs pleurer. Elle sait ce qui l'attend, elle sait ce qui est le destin de son peuple. On peut imaginer qu'elle pourrait être en colère à ce moment-là. Elle prend tout le temps du repas. Elle semble ne rien laisser transparaître de ses émotions. Et Aman est là simplement à recevoir les honneurs comme personne invitée à la table du roi. Elle aurait pu se mettre en colère. Elle aurait pu lancer ses quatre vérités à Aman. Elle aurait pu le dénoncer. Et parfois, quand nous sommes face à des situations d'injustice, quand nous voulons rétablir la vérité, j'entends des chrétiens me dire « Ah ben, là c'était une situation qui n'était pas normale, je lui ai dit ce que je pensais, j'étais franc, je lui ai lancé mes quatre vérités au visage. » Et ces chrétiens pensent avoir agi en tant que bons chrétiens, en ayant affirmé la vérité, puis en ayant fait comprendre à l'autre ce qu'il devait comprendre. Et ils espèrent encore que l'autre va comprendre, s'incliner, demander pardon. Mais ce qui se passe généralement dans ces situations, c'est une aggravation du conflit. Pourquoi ? Parce que l'autre se sent agressé, et d'agressé, il va devenir agresseur, et il va passer en mode attaque. Esther est suffisamment subtile pour comprendre cela. Et c'est pour cela qu'elle use de stratégie, de diplomatie, qu'elle honore le roi, qu'elle honore Aman. Elle les invite. Elle reste, elle, dans une position d'humilité. Elle n'est pas dans une position de revendication, ni dans une position de colère. Elle laisse même une certaine marge de manœuvre au roi pour qu'il ne se sente pas dépossédé de son pouvoir. Et on voit qu'au verset 5, c'est Xerxès qui va ordonner qu'on se dépêche de prévenir Aman. Ah, il faut que le roi puisse avoir le sentiment de garder le contrôle de la situation. Mais s'il pense avoir le contrôle, c'est bien Esther qui est aux commandes. Auprès de qui iront-ils ? Auprès d'Esther qui les a invités. On a un tournant de l'histoire. Esther s'affirme. Esther se positionne. Esther assume son identité de femme juive Elle assume sa foi. Elle est prête à prendre des risques pour elle, pour son peuple. Et du coup, ça renverse le cours de l'histoire. Elle ne cherche pas son avantage. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle travaille avec des motivations qui sont réellement saines. Les motivations saines, c'est précisément ce qui manque à Amant. Elle contraste avec Esther saisissant. Nous lisons la suite du récit, versets 9 à 14. Amant sort du festin et nous lisons ce jour-là. Amant sortit joyeux, le cœur content. Soudain, Amant vit Mardochée à la porte du roi. Celui-ci ne se levait pas et ne tremblait pas devant lui. Alors Amant fut rempli de fureur au sujet de Mardochée. Mais il se domina et rentra chez lui. Il envoya chercher ses amis et Zeresh, sa femme. Amant leur conta sa richesse prestigieuse, le nombre de ses fils, toutes les façons dont le roi l'avait distingué en l'élevant au-dessus des princes et des gens de la cour du roi. Et même, leur dit-il, c'est moi, et personne d'autre que la reine a invité avec le roi au banquet qu'elle donnait. Et demain encore, c'est moi qu'elle a convié avec le roi. Et pourtant, tout cela ne vaut rien pour moi tant que je verrai ce juif, Mardochée, assis à la porte du roi. Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui dirent « Qu'on dresse donc une potence, haute de 50 coudées, et demain matin, tu demanderas au roi qu'on y pende Mardochée. Tu peux donc aller joyeux au banquet avec le roi. » Et la chose plut à Amant. Il dressa la potence. Et c'est ainsi que se termine le chapitre 5. Il dressa la potence. Je me souviens d'une rencontre il y a fort longtemps avec un artiste peintre qui aimait tellement se raconter qu'il prenait vraiment toute la place dans le temps que nous avions ensemble. Tout le temps du repas n'avait consisté pour moi qu'à écouter tout ce qu'il avait réalisé, combien il était fantastique. Et je me souviens que j'avais été impressionné par tant d'égocentrisme. Eh bien, avec Amant, c'est un peu pareil. Il rassemble ses plus proches, sa femme, ses conseillers, et au verset 11, nous lisons « Amant leur conta sa richesse prestigieuse, le nombre de ses fils et toutes les façons dont le roi l'avait distingué en l'élevant au-dessus des princes. » Vous voyez le contraste ? Esther qui cherchait véritablement l'intérêt des autres et Amant qui a pour seule préoccupation de se faire valoir. Il a besoin qu'on l'admire. Il cherche désespérément l'approbation des autres. Et quand on cherche l'approbation des autres de manière aussi désespérée, c'est qu'on n'est pas très sécure. C'est qu'on ne sait pas trop quelle est notre identité intérieure. Alors il commence à raconter aux autres, et même à sa femme, le nombre d'enfants qu'il a, comme si sa femme ignorait le nombre d'enfants. Et ce qu'il met en avant, c'est sa prospérité, sa position, son progrès social. Peut-être même on peut lire entre les lignes ses performances sexuelles. Et en d'autres termes, Amant est en train de dire « Mais voyez, je suis quelqu'un, j'ai réussi dans la vie, je ne suis pas n'importe qui. » Et en parlant de lui, il a besoin de se prouver et de montrer qu'il existe. Et je trouve un parallèle entre ce qu'Amant fait et est avec notre culture d'aujourd'hui, la culture du début de ce 21e siècle. Est-ce que notre culture n'est pas également essentiellement centré sur nos performances, sur l'obsession de se mettre en avant, de se mettre en scène, en postant régulièrement des photos ou des nouvelles sur les réseaux sociaux. Un peu comme si, pour exister, on avait besoin d'une multitude d'amis et puis, si possible, de nombreux likes. Et tout cela est tellement virtuel, tellement égocentrique, tellement centré sur soi. On se désinvestit de la vie de tous les jours. On pense moins aux autres. Et je me demande dans quelle mesure ce besoin de se valoriser sur les réseaux sociaux, comme Amant se valorise en parlant de lui, n'est pas quelque part le signe de blessure, de fragilité, de faille dans l'existence. Pour exister, j'ai besoin que les autres me fasse exister. J'ai besoin de m'accomplir au travers des autres. Mais par là, je deviens le centre de tout. Tout l'univers tourne autour de moi, de ma personne. Et c'est le culte moderne du moi, de l'individualité. Je crois que c'est ce qui se passe pour Aman. Un homme puissant, un homme à qui on ne peut rien refuser, mais un homme extrêmement fragile. Voyez ce qui se passe à partir du verset 9. Il est dit qu'il quitte festin organisé par Esther, tout joyeux, le cœur en fête. Il semble pris de vertige par ce qui lui arrive. La reine m'a invité. Moi seul. Cela signifie qu'elle me respecte, ça signifie que je suis important pour elle. Mais ironie de l'histoire, ces hasards qui sont faits par Dieu, il rencontre au sortir du palais ce juif Mardoché sur son chemin qui refuse de se lever pour s'incliner devant lui. S'il avait été sûr de lui, il aurait passé outre sans que ça le dérange. Mais là, il ne voit plus que Mardoché, que cet obstacle sur la route. Son monde intérieur s'écroule et nous lisons verset 9. Alors, Aman fut rempli de fureur. Voyez, quand on dépend du regard des autres, tantôt on peut être au sommet, tantôt on peut être dans les abîmes et les profondeurs, parce que ce qu'on est dépend de la manière dont les autres nous regardent. Du coup, on a un monde intérieur qui est extrêmement fragile. On vit au travers de ce que les autres disent de nous. Et quand les autres sont indifférents, on n'est plus personne et notre monde s'écroule. Donc on va tout faire pour se promouvoir soi-même. On va tout faire pour que les autres parlent de nous positivement. Mais la différence fondamentale entre Esther et Aman, c'est que le réseau qui est autour d'eux n'est pas du tout le même. Esther appartient à une communauté d'hommes et de femmes réels, de gens qui sont prêts à s'investir dans la prière, dans le jeûne pour elle. Aman est entouré de gens qui n'ont pas le choix, qui sont obligés de lui faire plaisir, de lui renvoyer une image positive. Et ça, c'est un monde virtuel. Ce n'est pas le monde réel. Au fond, Aman est seul. Il a une audience, il a un public, mais il n'a pas de communauté. Aman a tout obtenu dans la vie. Il est riche, il a de la prospérité, il a une famille, il a une carrière impressionnante, il a eu du succès. Et pourtant, à peine sorti du palais après ce festin avec la reine, verset 13, il dit « Tout cela ne vaut rien pour moi tant que je verrai ce juif Mardoché assis à la porte du roi. Que quelqu'un puisse lui résister, c'est un signe qu'il n'est pas tout puissant. Mardoché qui refuse de s'incliner lui renvoie l'image de quelqu'un qui n'a pas réussi à être au-dessus de la mêlée, qui n'a pas réussi à prendre sa place. Et ce qu'Aman cherche désespérément, c'est du respect, parce que son identité vient de ce que les autres lui offrent en retour. Aman aurait besoin d'un regard approbateur de Dieu, qu'il délivrerait du regard des autres, mais il est prisonnier du regard des autres. Et quand on est prisonnier du regard des autres, il y a des moments où l'on en vient à être orgueilleux, à être hautain, à être arrogant pour se faire valoir. Et c'est pour cela que quand sa femme, ses amis lui disent « Mais ôte cet obstacle de ta route, dresse une potence et fais en sorte que le roi pende Mardoché demain matin », le projet convient à Aman, il lui plaît et il l'accepte. Ce qui compte pour lui, c'est la vengeance, la destruction, parce que son ego en a pris un coup. Nous lisons dans les Proverbes 16, verset 18, l'orgueil précède le désastre, l'esprit hautain précède la chute. Alors comment Dieu va-t-il agir? Que va-t-il faire? Et c'est là que Dieu intervient dans les coulisses de l'histoire et que nous lisons le chapitre 6. La chose plut à Aman, il dressa la potence, mais cette nuit-là, Comme le sommeil le fuyait, le roi se fit apporter le livre du souvenir, les chroniques, et on en fit la lecture au roi. Or, il était écrit là que Mardoché avait fait un rapport sur Bigthan et Térech, les deux eunuques du roi de la garde du seuil, qui avaient cherché à porter la main sur le roi Xerxès. Et le roi dit, « Quelle promotion honorifique a-t-on conférée à Mardoché pour cela ?» Les serviteurs personnels du roi répondirent, « On n'a rien fait du tout pour lui. » Mais, dit le roi, « Qui vois-je dans la cour ?» C'était Amon qui arrivait dans la cour extérieure de la maison du roi, pour demander au roi qu'on pende Mardoché à la potence qu'il avait préparée pour lui. Les serviteurs du roi dirent, « C'est Amon qui se tient dans la cour. » Et le roi dit, « Qu'il entre ?» Amon entra, et le roi lui dit, « Amon, que faire à un homme que le roi désire honorer ?» En son for intérieur, Amon se dit, « À qui donc le roi désirerait-il faire honneur plus qu'à moi ?» Et Amon dit au roi, « Un homme que le roi désire honorer, eh bien que l'on prenne un vêtement royal que le roi a porté, et un cheval que le roi a monté, et sur la tête duquel une couronne royale a été posée. Que l'on confie ce vêtement et ce cheval à l'un des princes du roi, un dignitaire, qu'on revête ainsi l'homme que le roi désire honorer, qu'on le conduise à cheval sur la place de la ville et qu'on proclame devant lui « Voilà ce qu'on fait à l'homme que le roi désire honorer. » Le roi répondit à Amon, « Vite, prends le vêtement et le cheval comme tu l'as si bien dit, et agis ainsi en faveur du juif Mardoché, celui qui est assis à la porte du roi. Ne néglige aucun détail de tout ce que tu as dit. » Amon prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardoché, le promena à cheval sur la place de la ville et proclama devant lui, « Voilà ce que fait un homme que le roi désire honorer. » Puis Mardoché retourna à la porte du roi, tandis que Amon se précipitait chez lui, en deuil et la tête voilée. Amon raconta à Zeresh sa femme et à tous ses amis ce qui lui était arrivé. Ses conseillers et Zeresh sa femme lui dirent, « S'il est juif, ce Mardoché, devant qui tu as commencé à déchoir, tu ne tiendras pas devant lui. Ta déchéance sera totale devant lui. » Nous avions terminé le chapitre 5 avec la certitude que Mardoché allait être pendu quelques heures plus tard. Et voilà un basculement complet au chapitre 6. Un basculement qui n'est dû ni à l'initiative de la reine, ni à l'initiative de Mardoché, ni à l'initiative de Amon, ni à l'initiative d'aucun homme. Ce tournant est dû à une suite de hasards, de coïncidences, qui se succèdent et qui changent le cours de l'histoire. Dieu entre en scène, de manière discrète, mais il entre en scène. Réfléchissez, qui est-ce qui enlève le sommeil du roi précisément dans cette nuit cruciale? Qui fait que le roi pense à demander la lecture des annales royales? Qui fait en sorte que précisément en ouvrant les annales, on tombe sur le récit de Mardoché? Qui fait en sorte que le roi se pose la question de savoir comment Mardoché a été récompensé, alors qu'il n'y avait pas pensé la première fois? Qui fait en sorte que juste à ce moment-là, Amon se présente dans la cour? Toutes ces situations, qui sont des situations anodines, les situations de la vie courante se produisent de telle manière à ce que ça déclenche un changement radical dans le cours de l'histoire. Le roi fait venir Amon, il ne lui prend même pas le temps de lui demander pourquoi il est là. Amon n'a pas le temps d'expliquer qu'il aimerait que Mardoché soit pendu. Verset 6, le roi lui dit « Que faire à un homme que le roi désire honorer ?» Et Amon, tellement imbu de lui-même, tellement égocentrique, il ne lui traverse pas du tout la pensée qu'il pourrait s'agir de quelqu'un d'autre. Et sa réponse est hallucinante. Il propose au roi d'offrir tous les prestiges royaux à l'homme que le roi désire honorer. Et même que cet homme porte la tunique du roi, qu'il soit sur la monture du roi, que le cheval soit couronné de la couronne du roi. En fait, Aman est tellement sûr que c'est de lui qu'il s'agit que son désir le plus grand qu'il puisse imaginer, c'est d'être le roi pendant un court moment. Que tout le monde l'admire, qu'on puisse voir combien il est glorieux. Et c'est là que l'histoire bascule. Parce que celui qui est élevé est tout à coup abaissé. Et celui qui était abaissé se voit tout à coup élevé. Verset 10, le roi répondit à Aman, « Vite, agis ainsi en faveur du juif Mardoché. » Ce fameux juif Mardoché qui l'empêchait toujours d'être qui il était, lui, Aman. Et le roi ajoute, « Ne néglige aucun détail de tout ce que tu as dit. » Et c'est le début de la déchéance, la honte suprême, qu'il doit promener son ennemi sur la place publique en criant devant lui, « Voilà ce qu'on fait à un homme que le roi désire honorer. » Remarquez que jamais le roi n'a eu le désir de jeter l'infamie sur Aman. Tout comme jamais non plus il n'a eu le désir d'élever Mardoché à cette position. C'est encore simplement le concours des circonstances qui amène à cette situation-là. Une situation hautement symbolique, mais qui n'a été calculée par personne. Encore une fois, Dieu agit dans les coulisses. Ce qui arrive à Aman préfigure de sa perte finale. Et c'est ce que pressentent très bien sa femme et ses conseillers, qui lui disent au verset 13, « S'il est juif, ce Mardoché, devant qui tu as commencé à déchoir, tu ne tiendras pas devant lui. » Et c'est ce qui va se passer, on le verra la semaine prochaine. Dieu est aux commandes, c'est lui qui abaisse l'orgueilleux et qui élève le pauvre et l'indigent. Mardoché est élevé, lui l'indigent. Il est revêtu des habits du roi. Nous avons là une préfiguration de la remise en grâce du peuple juif que nous allons découvrir dans les derniers chapitres du livre. J'arrive à la conclusion de mon message ce matin. Un texte qui nous interpelle sur nos choix de vie. Nous pouvons agir à la manière d'Esther ou selon la méthode de Aman. Mais le texte est ici pour illustrer les conséquences des choix de vie que nous pouvons faire. Esther est prête à perdre le pouvoir, les honneurs, dans une vraie attitude d'humilité. Aman cherche désespérément à s'attirer les honneurs, à s'attirer le pouvoir, dans une recherche désespérément d'exister. Aman, l'orgueilleux. Aman, l'homme imbu de lui-même. Et ce qui fondamentalement fait la différence entre Esther et Aman, c'est qu'Esther cherche l'approbation de Dieu dans ce qu'elle fait, alors qu'Aman cherche l'approbation des hommes. Et ça nous pose cette question, pour moi, comment est-ce que je vis ma vie? Qu'est-ce que je recherche? Est-ce que je suis prêt pour suivre le Seigneur, à renoncer à la popularité, aux honneurs, aux privilèges, au pouvoir? Il y a quelqu'un qui a renoncé à tout cela. L'homme par excellence, Jésus. Il a renoncé à garder ses privilèges et sa position dans les cieux. Il a accepté de venir parmi nous, en perdant tout, même en se sacrifiant pour la cause de son peuple. Esther s'est identifiée à son peuple. Jésus s'est identifié à nous. Esther a assumé sa fonction de reine pour sauver son peuple. Jésus a renoncé à sa fonction ou à son statut de roi. Il s'est dépouillé, il s'est humilié pour nous sauver. Esther était prête à se présenter devant un roi qui détenait le pouvoir de la vie et de la mort, mais Jésus s'est tenu devant un roi bien plus grand qui détient le pouvoir ultime sur la vie et sur la mort. Et il n'a pas tenu à garder la vie, il a été prêt à la sacrifier sur la croix. Le roi n'a pas pu dormir cette fameuse nuit où Dieu l'a réveillé pour qu'il lise les annales. Cette fameuse nuit où tout bascule. Mais à Gethsémané, Jésus a fait nuit blanche aussi. En luttant avec son Père, il aurait dû recevoir tous les honneurs. Il n'a reçu que la colère que nous méritions. Si l'insomnie du roi a constitué un tournant dans l'histoire juive, la croix constitue un tournant dans notre propre histoire. toutes les perspectives sont renversées à la croix. Mardoché a été élevé en recevant les vêtements royaux. En Christ, nous avons été élevés aussi, en étant revêtus des habits de justice. Dieu nous a sauvés. Nous ne le méritions pas. C'est l'effet de sa grâce. Le Seigneur nous aime. Il a fait de nous ses enfants. Nous avons de la valeur à ses yeux. Et nous n'avons plus besoin de chercher l'approbation des autres. Ce qui compte, c'est d'obtenir l'approbation de notre Seigneur dans toute notre vie, dans toute notre conduite. C'est lui qui prendra notre défense si les autres nous déshonorent. Nous n'avons pas besoin de nous vendre, pas besoin d'attirer l'attention sur nous. Ce qui compte, c'est Jésus, et Jésus seul. Amen.